15h, 17h.
Le Mac de l'après-midi, Sud Radio.
Le Mac de l'après-midi.
Marc Leval.
Très bel après-midi, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Le Mac de l'après-midi, c'est votre émission, un magazine qui parle de vous, bien sûr. Et puis, j'espère qu'on va avoir le plaisir de vous accueillir sur l'antenne si vous souhaitez réagir au 0826 300 300. Les réseaux sociaux, les SMS, vous connaissez le principe de la maison désormais et de cette émission, le Mac de l'après-midi. Alors, on a beaucoup parlé avec l'ensemble des équipes et nous avons décidé avec la rédaction du magazine Maxi que vous retrouvez chaque semaine sur l'antenne de Sud Radio, eh bien de vous parler d'un sujet qui vous concerne ou qui a peut-être concerné une personne de votre entourage. Quand on parle de performance, de productivité, de profit, toutes ces valeurs sont omniprésentes dans notre société et dans notre vie professionnelle. Même s'il est important de rechercher l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie de famille et sa vie personnelle, bah, tout n'est pas franchement simple. Parfois, on en arrive à des situations d'épuisement professionnel, c'est ce que l'on appelle le burn-out. Eh bien, nous allons l'évoquer, car c'est un dossier que met en avant cette semaine. Le magazine Maxi sort aujourd'hui, vous le savez. On va en parler dans un instant avec Anne Westman, qui n'est autre que la rédactrice en chef adjointe du magazine Maxi. Elle sera avec nous dans quelques instants sur l'antenne de Sud Radio. Nous en parlerons également avec Sylvie Brière. Elle est présidente de l'association France Prévention, et elle connaît bien ce sujet du burn-out. Et enfin, le docteur Jean Cotreau sera des nôtres. Il est psychiatre. Comment essayer de diagnostiquer ce syndrome? Eh bien, en lisant le magazine Maxi, vous allez vous rendre compte qu'on va encore utiliser un témoignage, comme le fait régulièrement la rédaction de Maxi, c'est-à-dire que c'est Florence. Florence qui a été notre témoin et qui vient nous raconter sa descente aux enfers et la manière dont elle s'en est sortie, le soutien de ses parents et puis le virage à 360 degrés qu'elle a vu, le virage professionnel qui lui a permis justement de changer d'univers et puis de se reconstruire petit à petit. Comment se relever d'un burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel? C'est le thème que nous avons choisi sur Sud Radio dans le Mac de l'après-midi. Alors si vous êtes concerné, si vous avez vécu comme ça ce symptôme et que vous l'avez subi de plein fouet, comment vous en êtes-vous sorti? Appelez-nous, je serais très intéressé de vous accueillir sur l'antenne 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite.
Marc Leval,
le Mac de l'après-midi,
Sud Radio.
Le Mac de l'après-midi et cette thématique choisie avec la collaboration comme chaque semaine du magazine Maxi, comment se relever d'un burn-out? Ça c'est le terme anglo-saxon, le syndrome d'épuisement professionnel. C'est vrai que burn-out, c'est plus facile et plus rapide à dire. Anne Westman, rédactrice en chef adjointe du magazine Maxi. Bonjour Anne.
Bonjour Marc.
Ça va?
Mais à ma foi, oui.
Vous n'avez pas...
Je ne fais pas de burn-out.
Bon, c'est ce que j'allais... Vous savez quoi? J'allais vous poser la question. Ça ne vous est jamais arrivé quand même.
Oh ben non, pas en travaillant avec vous en plus.
Bon, alors franchement, parce que quand on lit effectivement le magazine Maxi, quand on voit l'enquête que vous avez menée, le témoignage de cette dame qui se prénomme Florence, ça lui est tombé dessus comme ça d'un coup. Hein. Elle sentait que depuis quelque temps, ça n'allait plus. Mais là, on va donner dans le détail évidemment sa situation. Mais c'est effrayant, hein, la descente aux enfers d'un coup, hein, quand ça lui arrive. Hein.
Oui, mais d'ailleurs c'est souvent le cas. Hein. Beaucoup de personnes qui sont victimes de burn-out disent qu'elles n'ont rien vu venir et d'une minute sur l'autre, elles craquent.
Alors il y a quelqu'un qui est avec nous. On a des intervenants, des spécialistes qui connaissent bien cette thématique. Sylvie Brière est là, présidente de l'association France Prévention. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Le syndrome d'épuisement professionnel, thématique que vous abordez hein, sur le site de l'association France Prévention, pas que. Hein, franceprévention.org.
Oui,
c'est un thème que vous connaissez parfaitement parce que vous allez au contact de ces entreprises hein, pour témoigner et en même temps pour essayer de discuter et de mettre des mots sur ce mal.
Oui, alors il y a les gens qui me contactent bénévolement d'eux-mêmes avec facilité pour essayer de trouver des solutions au niveau de l'association. Et puis, effectivement, en tant que consultante en entreprise, je démarche les entreprises par rapport à ce problème qui devient pratiquement un problème quotidien pour beaucoup d'entreprises.
Plus en France que dans d'autres pays ou pas?
Ça se développe en ce moment. On a un raz-de-marée depuis 10 ans qui, là, actuellement, j'espère, atteint un pic qui va se réduire grâce à toutes les actions qui sont entamées et la vôtre, entre autres. C'est très important d'en parler. Je pense que ça va permettre aux gens de ralentir le processus en inter-entreprise et puis de trouver des solutions pour les employés qui vont démarcher plus facilement les professionnels de la santé ou leurs employeurs ou les syndicats. Éventuellement, si vraiment il y a rivalité. Quoi.
Le problème, c'est que c'est très très compliqué, d'abord pour la médecine du travail, pour les chefs d'entreprise ou éventuellement pour les médecins traditionnels, de déceler le moment où on va sombrer.
Oui, parce que les caractéristiques du burn-out et de la personne qui est donc vampirisée par cet emballement intérieur, eh bien, c'est que soit elle est suractive, soit elle est très introvertie. Mmh. Et elle a énormément de mal à expliquer ce qui lui arrive.
Ça veut dire donc, qu'on peut être en burn-out sans le savoir ?
Je crois qu'on le sait. Personnellement, j'opte plutôt sur le fait de le savoir. Je pense que c'est un processus qui s'installe avec beaucoup d'années. Mais en fait, on perd pied par glissade progressive et c'est une pente douce, très désagréable à vivre et qui est un peu occultée parce que comment expliquer qu'on va mal aux autres alors que parfois tout va bien à l'extérieur. Ouais. C'est un peu complexe pour les...
Oui, et puis il y a souvent la réflexion, et Yann Westman de Maxi va me le confirmer aussi, la réflexion de l'entourage qui dit « Allez, ressaisis-toi, enfin réagis,
oui.
Ça va. »
Oui, relève les défis,
oui.
Comment se fait-il, toi qui es si forte d'habitude,
ou
si fort. Oui, et alors il y a des moments où aussi il y a une perte de relation à soi qui est dans le sens où on s'aime plus du tout, ou alors on s'adore énormément. Mmh. Et alors ces fluctuations sont liées sans doute à des caractéristiques physiologiques, hein, puisqu'il y a épuisement. Mais donc ça, c'est un relationnel avec soi-même qui est très très difficile aussi à négocier. Et la plupart du temps dans la guérison, c'est le plus gros problème, le plus gros conflit, c'est de se récupérer soi-même et son image, son appartenance, enfin bon, son identité aussi quelque part.
On va voir au travers du témoignage de Florence. Florence qui est donc le témoin qu'a choisi et rencontré surtout Anne Westman et la rédaction du magazine Maxi. On va voir sa descente aux enfers, son équilibre de vie qui a complètement été déstabilisé par ce burn-out. Mais avant de revenir sur son cas et d'en parler, je voudrais que vous nous disiez, Sylvie Brière, quelle différence faites-vous entre le burn-out et une simple dépression ?
Ah, c'est tout à fait différent parce que la dépression c'est une caractéristique qui est un peu banale. On peut la rencontrer un petit peu dans la vie de tous les jours. Elle n'est pas reliée au professionnel. Le burn-out pour moi est lié déjà avec le harcèlement, c'est-à-dire que l'individu se sent soit harcelé, soit il le ressent comme il se ressent dans un harcèlement. Il peut être hypothétique, mais c'est quelque chose de toute façon dont il a l'impression de souffrir. C'est des tâches répétitives qui ne l'intéressent pas, un manque de perspective parce que l'argent de son salaire ne l'intéresse pas non plus, et ça, tout ça, ça constitue des éléments de harcèlement. Alors c'est la grosse différence avec la dépression classique, et une dépression, on peut très bien être dépressif parce qu'il fait mauvais temps, parce que la nuit est trop longue, ou parce qu'il a fait trop froid l'hiver et qu'on n'a pas eu le chauffage, vous voyez. C'est des aspects assez différents, c'est pas une notion de répétition d'action qui est récurrente. C'est ce qui se produit dans le burn-out. C'est des répétitions d'actes négatifs que l'on supporte mal.
Alors on va voir dans le magazine Maxi donc Florence. Anne Westman, vous en êtes la rédactrice en chef adjointe. Avec la rédaction de Maxi, vous avez donc décidé de rencontrer Florence. Florence, au premier abord, a l'air d'être quelqu'un de tout à fait sensé, équilibré, marié, deux enfants. Tout va bien dans un premier temps.
Tout va bien, sa vie est satisfaisante, elle pense qu'elle aime son travail, voilà, il n'y a rien à dire de très particulier. Elle a même eu une promotion il n'y a pas si longtemps.
Elle est plutôt bien intégrée, elle est dans la grande distribution, hein, si je ne m'abuse.
Voilà, elle est dans la grande distribution, elle a commencé hôtesse d'accueil, elle est devenue assistante de direction, donc vraiment, a priori, ça va bien. Bon, son mari travaille à temps partiel, peut-être que ça n'est pas voulu. Donc, quand même, elle a le sentiment qu'il faut qu'elle gagne sa vie. Mais enfin...
Oui, dans l'ensemble, ça va.
Non, dans l'ensemble, a priori, elle n'a aucune raison, aucune raison objective d'aller mal.
D'aller mal.
Ça parce qu'effectivement, beaucoup de gens peuvent dire à des personnes en souffrance au travail, comme ça vient d'être dit, « Oh, mais non, t'as pas de raison de te plaindre, t'aimes ton boulot, t'as un bon boulot, tout va bien dans ta vie. »
Et puis, il y a ceux qui ont cette capacité, cette force de pouvoir encaisser, on va dire, et puis il y a des personnes fragiles. Est-ce que, Sylvie Brière, une personne qui est un burn-out est obligatoirement une personne fragile ? Où est-ce qu'on le devient ?
Des personnes que j'ai accueillies téléphoniquement et qui donc préservent leur anonymat et donc se livrent plus facilement, il n'y a pas forcément toujours une notion comme ça de
fragilité.
de fragilité. Non, au contraire, des fois, ce sont des personnes qui comme on dit, s'arrachent, en fait. Et le fait de s'arracher et de vouloir arriver à un résultat positif, c'est lorsqu'ils sont dans l'impossibilité de se réaliser. Ce sont des émotions qui ne se gèrent pas par rapport à l'environnement professionnel et extérieur. L'expression ne se fait plus, quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la pression, et le problème, c'est de savoir si on se la met toute seule, cette pression, ou si la pression est due à sa hiérarchie ou aux objectifs qui sont difficiles à atteindre, ou ce manque d'autonomie dont on parlait, ce déséquilibre entre les efforts fournis et la reconnaissance qu'on attend de sa hiérarchie. Est-ce qu'on peut s'auto... Alors peut-être qu'encore une fois, j'extrapole et que je ne trouve pas les bons mots, mais est-ce qu'on peut s'auto... On peut, comment dirais-je, est-ce qu'on peut faire un burn-out, on va dire, d'une manière assez, assez personnelle, alors qu'il n'y a pas lieu de se sentir oppressé. Vous comprenez ma question ou pas?
Rarement j'ai vu ça. Je ne peux pas le dire dans ce sens-là. La majorité des cas, pour moi, ce sont des éléments extérieurs insupportables à l'individu, et l'individu n'arrive pas à expliquer que c'est insupportable ou il n'a pas de ressources. Stop, arrêtez, là ça ne peut plus marcher. En général, on lui en demande il a l'impression qu'on lui en demande toujours plus.
Toujours plus. Alors, c'est le cas de Florence dans cette enquête du magazine Maxi, Anne Westman, parce que autant effectivement sa vie va plutôt bien jusqu'au jour où elle change de direction, nouveau service, nouveau directeur.
Voilà, nouveau service. On lui dit, je compte sur vous.
Le problème, c'est qu'avec sa nouvelle,
le problème, c'est qu'avec sa nouvelle direction,
ça passe pas du tout.
Voilà, elle apprécie pas tellement sa nouvelle direction. Elle a du mal à s'y faire. Ça fait partie c'est un changement professionnel qui est déstabilisant. Vous parliez de fragilité. En tout cas, elle est fragilisée par la situation. Probablement, elle a un petit peu de mal. Elle a un petit peu de mal à s'adapter. Et puis voilà. Alors elle essaye de faire le maximum parce qu'elle a beaucoup de conscience professionnelle et elle essaye de bien faire. Ce qui est d'ailleurs le cas de beaucoup de personnes qui font des burn-out. C'est pas du tout des gens qui sont.
C'est pas des tirs au flanc, hein. Soyons clairs.
Non, mais pas du tout. En général, des gens. Toutes les études le montrent, hyper investis dans leur boulot. C'est le cas de Florence. Elle est hyper dedans, hyper investie. Elle essaye de faire son maximum. C'est difficile. Et puis c'est vrai que son nouveau directeur fait des sous-entendus désagréables, adresse quelques reproches. Et du coup, elle, à tort ou à raison, on ne saura jamais. Mais de toute façon, ce qui importe, c'est son vécu. Elle se sent dévalorisée, nulle, menacée en permanence, dit-elle. Alors, est-ce qu'elle est vraiment menacée? Est-ce qu'on la dévalorise réellement ou c'est une impression qu'elle a? Le résultat, en tout cas, est le même. C'est-à-dire qu'elle vit ça extrêmement mal. Jusqu'au jour où elle lâche.
Jusqu'au jour où elle lâche. Mais d'abord, avant de parler de la manière, effectivement, dont les signes physiques vont commencer à être concrets, elle se met la pression, véritablement. Elle dit qu'effectivement, elle a les reproches. Et en plus, vous avez parlé tout à l'heure, Anne, du fait que son époux, son mari, travaillait à mi-temps. Donc financièrement, c'était pas non plus extraordinaire. Donc il y a la famille derrière, ils ont besoin de son salaire, donc elle s'auto-persuade de ne pas craquer et d'aller au bout, parce que c'est la vie, en tout cas, de la famille en dépend. C'est la pression qu'elle se met. Juste un mot, Sylvie Brière, et là on pourrait se dire, et on a dû lui dire d'ailleurs à ses témoins, Florence, arrête de te mettre la pression, t'étais parano, arrête un peu.
Oui, alors ça, c'est un désaccord profond de la personne qui glisse dans le burn-out avec son environnement. C'est-à-dire que elle ne se considère pas comme malade mentale, et elle ne l'est pas d'ailleurs. Donc, en fait, ce qu'elle subit, c'est une déshumanisation de son travail.
C'est ça.
Donc, effectivement, la plupart du temps, il y a quand même des conditions de travail qui se sont dégradées et des mots ou ou un groupe de travail qui n'est pas accueillant et qui en demande généralement toujours plus, beaucoup plus de résultats, de productivité et en plus, avoir le sourire, être agréable, ne jamais avoir d'erreur, ne jamais avoir de mots de travers et ne jamais avoir autre qu'un sourire. sourire sur les lèvres, quelles que soient les circonstances. Ouais. Alors ça met une pression très importante à la personne qui est en jeu. Mmh. Et effectivement, c'est une déshumanisation du rapport professionnel et non pas une maladie mentale qui s'installe. C'est concret qu'il y a une origine précise, en fait.
Et là, on va voir qu'il y a un truc qui est assez, pas étonnant, mais qui commence à se vérifier, c'est que ça n'est pas que sur l'aspect, on va dire, mental, que l'aspect psychologique, c'est physiquement que tout se ressent, c'est-à-dire qu'elle commence à parler de migraines, d'insomnie, même si elle break un peu le week-end, elle est omnibulée par la situation, avant même de retourner bosser, elle a déjà, en se levant, ce qu'on appelle la boule au ventre, et il y a même des crises d'angoisse, hein, des crises d'angoisse quotidiennes, et du coup, les nerfs lâchent de temps en temps, et son entourage, son mari, sa famille, ses enfants s'aperçoivent que quelque chose ne va pas, jusqu'au jour où son mari lui dit, écoute, il faut absolument que tu en parles, et commence par aller voir notre médecin, et éventuellement en parler à ta direction.
C'est ça. Et il lui dit, moi, pour moi, tu es dans le rouge, ça va pas du tout.
Oui, c'est ça.
Donc effectivement, alors elle va parler de son mal-être à la direction. Elle va se rendre aussi, ce qui est un très bon réflexe, à la médecine du travail. Ouais. Mais personne n'entend sa souffrance, ne prête suffisamment l'oreille. Voilà.
Ce qui est fou, c'est que le médecin va lui dire, oui, pardon, quand vous vous sentirez fatigué, ben vous arrêtez-vous.
Oui, c'est ça, voilà.
C'est incroyable.
Exactement. Ouais. Bon, alors, voilà, c'est vrai que c'est un peu désarmant comme remarque, parce que d'abord, quelqu'un qui investit dans son boulot et qui est stressé n'a pas envie de s'arrêter en général, ouais. Et puis on décide pas tout seul comme ça de bah s'arrêter. Oui. Elle, en fait, elle aurait eu besoin qu'un médecin ou que sa direction, mais enfin, en tout cas, au moins un médecin lui dise « Vous n'allez pas bien, je vous arrête. »
Oui, parce que non seulement...
Elle ne peut pas elle-même s'arrêter.
Bien sûr, non seulement les médecins lui dit ça, mais en plus de ça, enfin, ce médecin, il ne s'agit pas de faire une généralisation, mais, sa direction qui va lui dire, écoutez, hein, moi je veux rien entendre, on a besoin de vous au boulot, à Florence, donc s'il vous plaît, ressaisissez-vous, repartez du bon pied. Vous allez voir que là, évidemment, ça ne va pas du tout être le cas. On revient dans un instant, on marque une première pause, on se retrouve avec Sylvie Brière, avec Anne Westman du magazine Maxi, sur ce dossier, cette enquête sur le burn-out, et puis nous aurons le docteur Jean Cottreau, qui est psychiatre et qui connaît bien cette question. À tout de suite.
Le Mac de l'après-midi, Sud Radio,
Marc Leval.
Un dossier très intéressant cette semaine dans le magazine Maxi avec nous, Anne Westman, rédactrice en chef adjointe. Le burn-out, comment se relever d'un burn-out, ce syndrome de l'épuisement professionnel, on en parle depuis quelques minutes, également avec Sylvie Brière qui n'est autre que la présidente de l'association France Prévention, et avec l'arrivée du docteur Jean Cottreau qui est avec nous, psychiatre. Bonjour docteur.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes parce que votre éclairage, évidemment, votre expertise professionnelle sera très intéressante à entendre. Juste pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je redresse le tableau vite fait. Florence qui travaille donc dans la grande distribution, mariée, deux enfants, tout va bien dans un premier temps. Elle change de poste et d'univers, nouveau directeur, nouveau service, ça passe pas du tout. Et donc du coup, elle se met la pression. En tout cas, on sait pas si elle se met la pression ou si elle a véritablement cette pression. Et c'est cela qui va commencer à déclencher certains symptômes physiques, parce que au-delà de l'aspect boule au ventre, pas bien, ou se sentir un petit peu patraque, il y a les migraines, les insomnies, il y a ces week-ends, les vacances qui ne changent absolument rien. Et en moins de 6 mois, les crises d'angoisse qui deviennent absolument quotidiennes, la boule au ventre dès le matin, les nerfs tendus jusqu'à quasiment l'empêcher d'avoir des relations normales avec les autres personnes de son entourage, aussi bien la famille, les amis que les collègues de travail. Donc ça va pas du tout. Son mari s'en rend compte, il lui dit écoute, faut que tu fasses quelque chose parce que là t'es dans le rouge, t'es en train de sombrer. Est-ce que déjà ça, elle peut en être consciente, docteur, ou est-ce qu'il faut vraiment à un moment donné mettre le doigt là où ça fait mal et booster ces gens pour leur dire il faut se prendre en main?
Moi je pense qu'elle en est tout à fait consciente. Si elle dit qu'elle a des attaques de panique, de l'anxiété, etc., le problème, c'est de rattacher ça uniquement au travail. C'est effectif que le travail peut être une source énorme de psychopathologie. Mais il y a quelque chose que dont je ne vous ai peut-être pas parlé.
Dites-moi.
C'est que d'un côté, le travail peut être une source de psychopathologie, mais le chômage l'est beaucoup plus. Donc, l'absence de travail, on double le taux de problèmes et de suicides, etc., pratiquement. Hein. Et même avant la crise de 2008, et la crise des subprimes, ça a entraîné une vague de suicides dans le monde anglo-saxon considérable. Ouais. Alors, au travail, c'est pas pour nier qu'il y ait des risques psychosociaux au travail. Le problème, c'est d'attacher uniquement au travail cette problématique. Alors, il est évident que dans certains endroits, Le mauvais management fait que ou les mauvaises relations au travail, l'absence d'autonomie, les exigences excessives, la gestion au stress vont provoquer le tableau du burn-out qui évolue en général en trois temps. Il y a tout d'abord une surcharge, qui est une surcharge de travail, le développement d'une attitude déshumanisée ou l'impression de vivre une vie déshumanisée, le cynisme et la perte du sens vis-à-vis du travail. C'est ça qui est spécifique du burn-out. C'est que les personnes, finalement, arrivent à dire qu'ils font quelque chose de médiocre, qui n'a plus aucun sens, parce qu'ils sont pris sous une contrainte. Et alors, c'est en grande partie lié actuellement aux circonstances économiques, parce que les patients nous disent, une autre époque, si ça n'allait pas, je partais le samedi et je retrouvais du travail la semaine prochaine.
Ce qui est plus le cas.
Si l'environnement te connaît, alors que là, ils sont dans une espèce de huis clos, une espèce de marmite, où si on trouve un chef qui n'est peut-être pas adéquat, les personnes vont décompenser, ne pourront pas s'en aller si facilement.
Et c'est vrai que le fait d'avoir un exutoire, ça suffit pas. Ça suffit pas. On peut très bien essayer de décrocher, peut-être en sortant de ses horaires de bureau traditionnels, et puis faire autre chose. Mais quand le mal est là, à un moment donné, c'est très compliqué. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, docteur Jean Cottreau, c'est le management. Est-ce que ça veut dire, Sylvie Brière, que lorsque vous vous retrouvez chez ces entreprises, auprès de ces chefs d'entreprise, ils ont conscience de ça et que le fait de manager une équipe, c'est pas nécessairement donné à tout le monde et qu'il y a un savoir-faire à avoir.
Oui, il y a un savoir-faire à avoir et par contre, en fait, le chef d'entreprise est obligé d'avoir un management qui correspond à sa productivité. Donc, s'il est en réduction de personnel, il va demander une productivité supérieure aux personnes présentes, avec parfois des menaces, si vous voulez, entre guillemets, qui sont peut-être pas des menaces verbales ou clairement énoncées, mais qui seront quand même présentes, dans le sens où, en fait, il y a risque de licenciement, risque de fermeture de l'entreprise, et puis il y a des rapports sociaux qui se dégradent en interne de l'entreprise par la suractivité des salariés qui vont être en relation plus ou moins conflictuelle avec leurs collègues, sans peut-être en avoir l'intention. Il n'y a pas que nuisance dans l'idée. Il y a malheureusement une espèce d'engrenage qui est provoqué en interne dans les entreprises. Ce qui fait que, effectivement, la déshumanisation va s'installer et le harcèlement dont je parlais précédemment, et évidemment cette espèce d'emballement psychologique et physique que va subir l'employé. Celui qui sera le plus touché sera celui qui est souvent le plus consciencieux, qui ne sait pas décrocher.
Alors, dans le dossier de Maxi et Florence, donc notre témoin, cet emballement dont vous parliez justement, Sylvie Brière, il y a un instant, il est là. Un jour, elle décide, donc elle va travailler comme tous les matins, direction son bureau, et là, elle prend l'ascenseur et tout bascule. Souffle coupé, un poids énorme qui lui écrase la poitrine. Elle est évidemment dans un état qu'elle ne comprend pas. Elle s'imagine même, parce qu'elle fait un peu d'asthme, qu'elle a une crise d'asthme d'un coup, mais visiblement ça n'est pas ça. Elle a même les jambes qui flanchent complètement, qui commencent un petit peu à aller dans tous les sens, à vibrer, à trembler dans tous les sens. Et là, elle s'effondre en larmes. Alors, pour ne pas évidemment s'afficher devant ses collègues, elle fonce aux toilettes et là elle se rend compte que ça va plus, que c'est plus possible. Et alors là où ça va être assez inquiétant, et Anne, vous êtes d'accord puisque vous l'avez rencontrée, cette Florence, c'est que elle décide de rentrer chez elle parce qu'elle sent bien qu'il y a un truc qui colle pas et elle tient plus le coup. Elle monte dans sa voiture et elle dit: j'avais qu'une envie, c'est d'aller tout droit.
Ouais. Elle dit les choses comme ça. Elle était dans une sorte d'état presque
second.
D'état second,
ouais,
en fait,
ça,
hein,
ouais, ouais.
Qu'elle n'arrive vraiment pas à s'expliquer, mais dont elle parle de cette manière-là aujourd'hui. Elle a même, dans les couloirs de l'entreprise, elle a croisé son supérieur hiérarchique qui lui a demandé: vous allez comme ça. Elle a même pas levé la tête, elle lui a pas parlé. Ouais. Elle a dévalé les escaliers, elle prend sa voiture et elle fonce droit devant. Ouais. Et elle me dit, j'aurais très bien pu me jeter droit contre un mur. C'est-à-dire qu'elle était vraiment mal, voire suicidaire à ce moment-là.
Ouais.
Dieu soit loué,
il n'y a pas
eu d'accident.
Évidemment. Docteur Jean Cottreau, les symptômes, c'est donc ça, à un moment donné, où il y a plusieurs manières. Là, elle craque, elle pleure, elle a les jambes qui flanchent.
C'est une des façons. C'est ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a fait une attaque de panique dans un ascenseur, dans une situation au stress professionnel. Donc ça, c'est des choses qui se traitent par les thérapies cognitives et comportementales. Donc c'est sur une vingtaine de séances, on peut arriver quand même à traiter ce genre de problème, ou on peut associer éventuellement les antidépresseurs, c'est traitable. Il y a plusieurs niveaux, je pense, dans le problème du burn-out. Il y a le niveau où on détecte une personne qui est à risque et il faut la traiter. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il faut que les médecins sachent le traiter.
Oui.
Au cas où ils ne connaissent pas le burn-out, il y a un questionnaire de Maslach qui permet de voir si les personnes sont en burn-out. D'autre part, les symptômes psychiatriques sont des symptômes très habituels. Hein. C'est dépression, anxiété, réaction de caractère, colère, etc. Et il faut décoder le diagnostic derrière et proposer une thérapie efficace. Ça, c'est un niveau. Mais on peut faire une prévention qui serait secondaire, c'est-à-dire développer des stratégies d'adaptation à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est quelque chose qui, pour l'entreprise, au lieu de stresser les employés, il ferait mieux de développer des programmes anti-stress à l'intérieur de l'entreprise, qui deviendrait un véritable projet d'entreprise. Il y a des méthodes de gestion du stress sur 8 séances. Il y a des méthodes de relaxation. Il y a des méthodes de pleine conscience qui peuvent aider beaucoup les gens, qui peuvent modifier les relations. Et au niveau primaire, ça serait entraîner les managers ou les leaders à fonctionner d'une autre manière.
Ah oui, ça c'est le management, effectivement, c'est pas...
Le management à l'agressivité et au stress, c'est le plus mauvais possible, le management. Le bon management, ce qu'on appelle transactionnel, est à la récompense des actions, le minimum de critiques, et ou autrement, d'avoir un leader qui est un peu charismatique et qui prend soin des gens, et qui est un leader, mais pas le chef, le chef haillon. Il est au service des employés pour les aider dans leur démarche personnelle et éventuellement émotionnelle, et redonner du sens à ce qu'ils font.
Évidemment, la productivité s'en ressentira. On marque une pause, on va revenir sur cette thématique du burn-out. Comment sortir et se relever, en tout cas, de ce burn-out, ce syndrome de l'épuisement professionnel. Nous y revenons dans un instant sur Sud Radio avec mes invités.
Le Mac de l'après-midi.
Le Mac de l'après-midi.
Sud Radio.
Le dossier Maxi de cette semaine sur l'antenne de Sud Radio avec Anne Westman, la rédactrice en chef adjointe, le syndrome de l'épuisement professionnel, comment se relever du fameux burn-out qu'on emploie parfois même, j'allais dire, à tort et à travers. C'est-à-dire que c'est facile aujourd'hui de dire « Ah bah tiens, j'étais en burn-out ». Burn-out, c'est vraiment, et docteur Jean Cotreau, vous êtes d'accord avec moi, vous êtes psychiatre, c'est vraiment la descente aux enfers. C'est le burn-out, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pas la petite migraine du moment.
Non, c'est pas non plus le conflit banal au travail de pouvoir qui est normal.
Oui.
Donc on a affaire à quelque chose qui coûte extrêmement cher à la société, c'est pour ça qu'il faut le prendre en compte, non pas uniquement par bonté d'âme, mais parce que si on regarde l'Union européenne, le stress coûte 20 milliards d'euros par an, et en France au moins un million d'euros. Mais ce qui a amené l'Angleterre, qui n'est pas spécialement quelque chose où la gestion est très très cool, à développer le traitement de l'anxiété et de la dépression, non pas uniquement par bonté d'âme, mais parce que c'est utile à l'économie de la Grande-Bretagne. Donc je pense que une des solutions, ça serait à l'intérieur des entreprises, sensibiliser les médecins du travail, qui le font d'ailleurs déjà, à diagnostiquer le burn-out ou les symptômes psychiatriques émergents, et avoir peut-être aussi à l'intérieur des entreprises des intervenants, psychologues du travail, qui interviendraient avec des méthodes efficaces comme la pleine conscience, les thérapies cognitives et comportementales, la gestion du stress, etc.
Oui, comme le fait d'ailleurs Sylvie Bruguère, qui est présidente de l'association France Prévention, qu'on a avec nous également, et qui intervient régulièrement dans les entreprises professionnelles. On va continuer, tiens, Anne Westman, on continue notre histoire avec Florence, où en est-elle? Effectivement, elle a, on l'a dit, complètement flanché, du coup, arrêt maladie pendant 6 mois, son médecin généraliste pensait au départ un simple surmenage, d'où la difficulté, encore une fois, Anne, de diagnostiquer. Ça semble très difficile, ça. C'est pas une évidence de mettre tout de suite le mot burn-out sur un diagnostic.
Ben oui, non, parce que finalement la définition n'est pas toujours très claire. On le voit bien depuis tout à l'heure, on en parle, on tourne autour. Bon, et puis un médecin, il voit une personne pas très longtemps finalement, et c'est vrai qu'on peut aussi être un peu crevé, etc. Cela dit, très rapidement, le médecin finit par se rendre compte qu'elle va plus mal que ça.
Oui.
Et d'ailleurs, elle a des mots très clairs. Elle dit qu'il a fini par comprendre qu'elle était vidée, consumée de l'intérieur. Donc c'était beaucoup plus qu'un simple surmenage. Ça lui a valu des mois et des mois d'arrêt d'arrêt maladie. Et puis elle a été sous calmant, on lui a donné des antidépresseurs, elle a dormi, beaucoup dormi, et puis finalement elle a réussi à sortir la tête de l'eau et à se dire que
Alors ce qui est dommage dans dans le dossier dans Maxi, on dit pas de quelle manière elle a réussi justement à remonter la pente. Il y a les médicaments, d'accord, mais est-ce qu'il y a eu une thérapie particulière? Est-ce que
non, il n'y a pas eu de thérapie particulière. Il y a peut-être aurait-elle dû suivre une thérapie, une de celles auxquelles le docteur Cottreau fait allusion.
Absolument.
Non, elle non, elle est pas très au courant. C'est pas tellement son univers, elle fait confiance à son médecin, elle prend les médicaments, elle dort, elle se repose, et elle, ce qu'elle dit, c'est insensiblement, elle a été mieux, et puis, bon, elle a peut-être une capacité à rebondir assez importante, elle a eu une, finalement, elle a eu une espèce de sursaut, et elle s'est dit qu'il fallait qu'elle change quelque chose dans sa vie, et probablement qu'elle change de travail.
Oui, c'est ça, et qu'elle se désintoxique du stress qui l'habite depuis plusieurs années. Donc là, c'est le côté action-réaction, je prends ma vie en main. Sylvie Brière, décidément, je vais y arriver. Sylvie, ça semble, bon, pas simple, parce qu'encore une fois, on résume en 30 secondes ce qu'elle a vécu, elle, en quasiment un an, puisqu'il lui aura fallu entre 8 et 12 mois pour, encore une fois, se requinquer. On peut, comme ça, se prendre en main, prendre conscience des choses, et puis remonter la pente tout doucement?
On peut, mais on peut aussi faire totalement l'inverse.
Eh oui.
Donc c'est la diversité du burn-out, elle est liée à l'individu. Donc en fait, il y a des personnes qui sont en burn-out silencieux, donc ils ne vont jamais manifester quoi que ce soit. Ils vont être dans des stratégies de défense qui vont faire qu'ils vont montrer à l'environnement qu'ils sont identiques à d'habitude. Et là, c'est les plus ennuyeux parce que le danger est impératif sur eux, sur leur famille, sur tout ce qu'ils font, sans le savoir, bien sûr. Hein, toujours, c'est toujours la même chose. Il y a une relation à soi qui est faussée. Je vais tenir. Et puis, au final, il n'y a peut-être pas non plus tout à fait des réponses extérieures. Et donc, comme ils ne sont sans doute super intelligents et sachant qu'ils n'ont pas les réponses extérieures, ils sont dans leur paraître « je vais bien, je vais bien, je vais bien ». Et donc, après, à un moment donné, quand il y a l'éclatement de la maladie, ce fameux processus que Florence a vécu dans l'ascenseur, eh bien, là, la personne est hyper, hyper dangereuse. Hyper dangereuse pour elle-même, pour son environnement, parce qu'elle peut effectivement prendre la voiture et créer des accidents et, bien entendu, impliquer les autres, par exemple. Hein. Pour revenir peut-être un petit peu en arrière avec le management, malheureusement, ce sont des postes qui ont été supprimés dans les TPE-PME, faute de moyens. Et effectivement, c'était des anciens chefs de service du personnel et ils avaient leur importance.
Oui, managers. Mais alors, je suis d'accord avec vous, Sylvie Brière, mais on pourrait peut-être aussi prendre les choses un peu plus en amont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que dans les centres de formation, les écoles de formation qui font les cadres de demain et les chefs d'entreprise de demain, est-ce qu'on les forme suffisamment à ça avant même qu'ils n'arrivent à diriger une entreprise avec des salariés?
Je suis assez d'accord que l'aspect management avec relation à l'autre, tout à fait synthétisé comme label, est un peu laissé pour compte. On parle beaucoup de productivité, de réactivité, de finances, de choses assez dures, si vous voulez, mais on oublie souvent l'humain. Ça, c'est la tendance d'aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a une récession économique qui s'installe et qui dont on n'arrive pas à sortir de non plus, à immerger. En fait, il y a aussi qu'on a des imprégnations extérieures qui partent du taylorisme américain des années 50, qui sont passées par le Japon, en passant par le Royaume-Uni, etc. Donc, on a des copies, si vous voulez, de modes de fonctionnement en entreprise qui sont pas tout à fait adaptés déjà à la culture française, mais alors aussi tout simplement à l'humain. Si on va dans des sites comme des productions de voitures où on impose des cadences, vous avez des gens qui à 45-50 ans sont très usés et qui font des les burn-out sans le savoir d'ailleurs.
Alors, on va marquer une dernière pause. On a encore 5-6 minutes à consacrer à cette émission. Je voudrais vraiment que vous soyez là juste après cette pause. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que Florence va faire un acte assez particulier qui semble tout à fait basique, bénin, et qui va complètement révolutionner son mode de vie et qui va lui permettre justement de sortir de l'ornière et de changer de vie. Vous allez tout savoir dans un instant avec mes invités sur Sud Radio, le burn-out et comment se relever. À tout de suite.
Le Mac de l'après-midi Sud Radio.
Avec le magazine Maxi, Anne Westman, la rédactrice en chef adjointe qui est avec nous, évidemment avec le docteur psychiatre, docteur Jean Cotreau et Sylvie Brière qui est la présidente de l'association France Prévention, franceprévention.org, association franceprévention.org précisément, avec cette thématique du burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel. Alors que s'est-il passé avec notre témoin, Florence, dans cette enquête Maxi, Anne ? Eh bien un jour, elle va tout simplement décider de faire ce qu'on appelle tout simplement un bilan. Le fameux bilan d'évaluation. Et que va-t-il se passer ? Eh bien, elle va tout simplement se rendre compte qu'à l'issue de l'analyse de ce bilan, le bilan de compétences, elle est juste à côté de la plaque depuis 25 ans.
Voilà, elle exerce un métier qui, d'après les tests...
ne lui correspond pas du tout.
Ne lui correspond pas du tout. Les tests indiquent que la paperasse et toutes les tracasseries administratives la dépriment et que, en fait, c'est une femme de contact. Voilà. Et
alors donc, qu'elle reste enfermée dans un bureau toute la journée.
Alors, voilà, sans beaucoup de contact avec les autres. Donc, ça l'a fait énormément réagir. Alors, elle a peur, hein. Elle a raconté longuement sa peur de prendre une décision radicale qui consiste à démissionner de son entreprise, etc. Parce que par les temps qui courent, c'est ce que racontent les gens, hein. C'est que, il y a tellement d'inquiétudes par rapport au chômage.
Difficile de retrouver, évidemment.
Non, mais elle prend le risque parce que de toute façon, elle a quitté l'entreprise de fait. Elle est arrêtée depuis longtemps et qu'elle a le sentiment, après avoir été si mal, qu'il faut introduire un changement radical dans sa vie. Et c'est ce qu'elle fait. Alors, petit à petit, elle commence d'abord par aussi s'inscrire à des cours de yoga, s'occuper un peu d'elle.
Oui.
Elle parle de réapprivoiser son corps, de réfléchir à ses priorités, etc. Et au bout d'une grosse année, elle met au point un nouveau projet professionnel.
Ouais.
Et la voilà à la tête d'une petite épicerie de produits régionaux.
Exactement. Et la vie est belle, pour tout le monde. Ah oui, complètement. Ça, c'est fantastique. Docteur Jean Cotreau, ça veut dire qu'il faut savoir à un moment donné se poser les bonnes questions avant qu'il ne soit trop tard.
Ben, c'est ce qu'on voit dans des cas heureux comme ça. J'ai vu ça chez des médecins, effectivement, qui abandonnaient la médecine à un moment pour faire toute autre chose, après une série de traumatismes de la part de patients dans les banlieues. Mais il faut bien voir que pour la majorité des gens, cette ressource n'existe pas, ou même cette possibilité sera très difficile. Donc l'action doit être une action très, très persévérante sur la modification des conditions de travail, sur la modification surtout de la gestion et du leadership.
Ouais.
L'Amérique n'a pas que le taylorisme, qui est un vieux truc. On parle aussi beaucoup du leader serviteur, c'est-à-dire que le leader qui est au service de ses employés et qui construit la confiance et qui est un leader aussi émotionnel que productif.
Vous avez le sentiment qu'on en est loin en France de ça ou pas?
Il n'y a pas antinomie entre la productivité et un leadership qui serait serviteur et plus à l'écoute des employés, parce que ça augmenterait la productivité par la confiance.
Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on le sait, ça, en France ? Est-ce qu'on en a conscience ? Alors, dans le domaine scientifique, en l'occurrence, vous, docteur, puisque vous êtes psychiatre et que vous suivez ces affaires, effectivement, on le sait, on le sent, on en a conscience. Est-ce que dans les écoles, les écoles de management, les écoles de commerce, les écoles de ceux qui feront les cadres de demain, on est conscient de ça ?
Ça commence. Il y a par exemple la chaire de Grenoble qui est centrée sur la pleine conscience et la paix économique, et en disant que c'est finalement, au final, c'est beaucoup plus rentable, une attitude exagérément agressive qui n'est pas forcément plus efficace sur le plan du développement économique. Quand on parle des firmes japonaises, on est surpris quand on va acheter une voiture dans les firmes japonaises par un accueil beaucoup plus relaxé que dans certaines firmes françaises. Ça, j'ai pu le vivre personnellement. Ça veut dire qu'il y a une éducation qui est faite dans ce sens.
Absolument. Sylvie Brière, ça veut dire aussi qu'on est encore en train de retard, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression, on découvre les choses, on a l'impression qu'on découvre tout le temps. Nous, on est toujours en retard
On pense que c'est une nouveauté, mais ça n'en est pas une. Et puis, nos réponses ne sont pas basées sur une réflexion, collective.
Ouais.
En fait, on s'aperçoit que dans le burn-out, tout le monde est concerné. C'est autant les professionnels que l'individu, le salarié. salarié de ou le professionnel de santé. Enfin voilà, c'est le patron, c'est l'entreprise, c'est le commerçant et ses clients. Enfin, je veux dire que ça se vit tous les jours. Donc par exemple, en prenant les petites entreprises avec les artisans qui sont obligés de faire la compta le dimanche, eux ils ont le cœur au travail, ils sont très contents de faire ce qu'ils font. Ouais. Mais comme ils sont installés dans une productivité liée aux charges sociales et à la responsabilité vis-à-vis de leur clientèle, ils se trouvent désynchronisés. Alors effectivement, il faut un monde plus doux, plus acclimaté à l'humain, qui soit un peu rationnel au rythme humain. Aujourd'hui, on est du 7 jours sur 7, nuit et jour, et ça, c'est un peu étrange, quoi.
En tout cas, on est parti vers cette direction et à vitesse grand V, quand on voit qu'aujourd'hui, on arrive même à ne pas réussir à se déconnecter avec tous les réseaux sociaux et les moyens que nous avons. On emmène même du travail à la maison. On va même jusqu'aux toilettes avec sa tablette et son téléphone portable, voire son ordinateur. Et parfois même, on part en vacances et on a beaucoup de mal, justement, à décrocher. Soyez vigilants, prenez soin de vous. Le syndrome de l'épuisement professionnel, le burn-out, à lire dans Maxi. Infiniment merci, Anne Westman. Merci pour cette enquête, encore une fois. Merci également à Sylvie Brière, qui est donc la présidente de l'association France Prévention, associationfranceprévention.org. Et puis au docteur Jean Cotreau, le psychiatre. Infiniment merci à tous les trois et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de ce Mac de l'après-midi. Vous êtes sur Sud Radio.